Et au cours de la prochaine heure, on aura le plaisir de s'entretenir avec Jean Pascal, porte-parole d'une campagne, une nouvelle campagne qui sera distribuée, qui sera propagée sur les médias sociaux pour continuer d'encourager les gens à respecter les consignes de santé publique. On va aussi parler à un président de comité de parents qui regroupe plusieurs comités de parents à travers le Québec. Comment les parents se préparent-ils à la possibilité de renvoyer les enfants, les élèves en classe? Quels sont les défis qui se présentent avec? C'est pas juste les écoles, c'est le transport scolaire. Qu'est-ce qu'on va faire avec les mesures de distanciation? Mais d'abord, on accueille notre ami, mon ami Ray Lalonde. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Mario.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci, toi.
Oui, ça va très, très bien. Content de te retrouver. Alors, on va passer les prochaines minutes à parler de sport, de la business du sport. Permets-moi juste, c'était pas dans nos sujets, tu sais que des fois, je dévie un petit peu vite fait.
Connais, Mario.
Je voulais juste que tu commentes l'association du tandem Gronkowski-Tom Brady. Et Gronkowski était probablement un des plus vocaux à dire à voix haute. Tom, il devrait, en voulant dire, envisager d'autres options que de rester en Nouvelle-Angleterre. Pour moi, les deux avaient un plan en tête.
Hein. Ouais, écoute, les deux ont vieilli beaucoup. Les deux ont connu énormément de succès. C'est bon pour le spectacle. C'est bon pour une ville comme Tampa Bay, où les Buccaneers ont été relativement moyens, médiocres, moribonds depuis des années. Alors, tout ça, là, peu importe ce qui va arriver, que Brady joue au même niveau qu'avant, ce qui est très peu probable. Gronkowski a subi tellement de blessures, mais c'est un personnage, il divertit. Encore une fois, dans l'espoir qu'on va pouvoir revoir des matchs de la NFL à l'automne, je pense que Tampa Bay, soudainement, Mario, dans une division très compétitive, soudainement devienne une équipe à surveiller qui va divertir les gens et qui va attirer les regards. Ça, c'est important.
Dans la perspective où ils peuvent jouer, mais avant de parler de la NFL, mais je voulais juste qu'on commence ça ensemble, c'était drôle, mais les ligues professionnelles, surtout NBA, et NHL, Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce qu'ils attendent pour dire c'est fini 2019-2020? Si on repart quelque chose, ça va être pour 2020-2021. Qu'est-ce qui les empêche de le dire publiquement, ça, même s'ils le pensent peut-être?
Oui, mais tu sais, il y a quelque chose que j'ai lu aujourd'hui que j'ai trouvé très intéressant. Quelqu'un qui soulignait l'idée de procéder tout de suite à l'annulation de la saison actuelle de façon, écoute ça, là, à rembourser les gens qui ont des billets qui ont des sommes d'argent dues pour les billets payés, que cet argent-là puisse leur servir dans leurs efforts financiers durant le coronavirus. Intéressant comme approche, parce qu'il y a de nombreux acheteurs de billets en Amérique du Nord, dans toutes ces ligues-là, qui étaient en pleine saison, qui peut-être auraient un besoin de cet argent-là. Puis pendant ce temps-là, l'argent reste dans les coffres de l'équipe, ou des équipes plutôt.
Alors. Oui. Quelle sera la réponse des équipes ou des ligues? Parce que les équipes ne parlent pas très, très fort. Ce sont les commissaires qui parlent.
Tout à fait.
Et t'attends-tu à une réponse en ce
sens-là? Non, il faut dire honnêtement, je trouve que la réaction était très intelligente, mais je ne suis pas certain qu'il va y avoir un mouvement à cause de ça. Je répète encore une fois qu'ils ont encore du temps, Mario. Ils ne sont pas pressés. On est le 22 avril. Pour moi, là, je ne vois pas d'une façon claire comment, dans le prochain mois, là, mi-mai, avant qu'il y ait besoin de se prononcer d'une façon ou d'une autre. Entre-temps, ce qui s'est passé dans la Ligue nationale, c'est qu'ils ont éliminé le scénario d'un endroit neutre. Donc, neutre voulant dire la Saskatchewan, le Dakota du Nord, du Sud, peu importe. Un endroit où il n'y a pas de ville ou de pas d'équipe de la Ligue nationale, c'est fini comme idée-là. Mais on considère encore sérieusement d'essayer de trouver 4-5 arénas NHL, c'est-à-dire 4-5 villes à proximité l'une de l'autre, pour possiblement y aller avec un gros coup pour compléter la saison. Fait que pendant qu'on pense, nous, à peut-être l'intérêt d'annuler, je te garantis qu'eux autres pensent à tous les moyens possibles, autant dans la NBA que la Ligue nationale de hockey, à préserver ce qui restait de la saison 2019-2020.
Mais là, écoute, je veux pas nous induire en erreur, mais il me semble avoir vu quoi passer juste avant. Évidemment, là, toute mon attention n'est pas consacrée aux nouvelles sportives, mais à l'effet que les scénarios du genre seraient balayés finalement par le commissaire Bettman. Je sais pas
si les scénarios, Mario, qui ont rapport à un endroit neutre.
Ah, OK.
Mais les scénarios où tu prends l'exemple, je te donne un exemple, c'est un mauvais exemple. Mais si tu prenais la proximité géographique entre Washington, New York, New Jersey puis les Islanders, ben là, tu aurais, tu sais, 4 arénas Ligue nationale de calibre. Bon, ça, c'est pas un bon exemple parce que l'endroit géographiquement ne convient pas du tout. Il faudrait que ce soit un endroit qui a obtenu des autorisations médicales et qu'il y ait vraiment un gros ralentissement et qu'on puisse procéder logistiquement. Alors, la Californie, peut-être pas, j'en doute parce que le gouverneur s'est prononcé à 2021 déjà. Est-ce que ça peut être au Texas, tu sais, entre Dallas, puis potentiellement jouer des matchs à San Antonio ou à Houston, dans des endroits pas trop loin géographiquement? Est-ce que ça peut être, tu sais, entre Chicago et Saint-Louis? J'en doute aussi. Je vois pas de réponse à ça, logiquement, là, mais peut-être que dans un mois, ça sera un scénario qui sera plus plausible, Mario. Mais à la fin, là, je termine ce point-là en te disant que il y a beaucoup d'incertitudes. Les joueurs savent pas qu'est-ce qu'il leur reste à jouer. Ils ne savent pas les dates de retour. Ils ne savent pas comment ils vont pouvoir se préparer, s'entraîner. Il n'y a pas de glace de disponible. Ils ne savent pas s'ils vont jouer tout de suite en série, s'il va y avoir un tournoi ou non. Ils ne savent pas non plus, surtout, qu'est-ce qui va advenir du plafond salarial pour l'an prochain.
Et ça, c'est un bon élément que tu soulèves. Ils ne savent pas quelle portion du contrat qu'ils ont signé ils vont avoir dans leur poche au bout de l'exercice. Il y a une chose qui va devoir arriver, puis c'est vrai dans plusieurs secteurs d'activité, mais les joueurs et les propriétaires, ils ont toujours dû s'entendre, mais ils vont devoir s'entendre avant l'échéance de la convention collective. Penses-tu qu'ils peuvent se rendre à la fin de cette convention-là puis payer les salaires des joueurs dans une perspective, dans des scénarios où ils ne recommencent même pas à jouer avant l'an prochain?
Ouais, ben la convention collective, tu sais, les deux parties, l'association des joueurs puis la Ligue nationale, les propriétaires avaient une option de sortir, mais elle se termine le 15 septembre 2022. Donc ça voudrait dire qu'il resterait la saison 20-21 et ensuite 21-22, deux autres saisons, advenant là une certaine forme de régularité là. Ce qui est important, Mario, c'est qu'il y a potentiellement jusqu'à 445 millions de dollars dus aux joueurs qui ont des bonis de saison, des bonis de signature dus aux joueurs le 1er juillet 2020. Ça, c'est pour la saison prochaine. Alors, tu comprends que 445 millions, ça, c'est des gars comme Carey Price, comme John Tavares, comme Mitch Marner, comme tous ces joueurs-là qui ont signé des contrats dans les 4, 5, 6 dernières années, où ils ont mis beaucoup d'emphase sur l'argent garanti sous forme de bonification de signature. Il y a deux types de bonis dans la Ligue nationale de hockey. Les bonis de performance, qui sont basés sur des statistiques puis des accomplissements. Et il y a les bonis de signature. Et de plus en plus, parce que les joueurs veulent l'argent garanti, justement, au cas où il y aurait des lock-outs ou des grèves ou des situations comme celle-ci, ben l'argent prend de plus en plus d'importance. Par exemple, les revenus de Mitch Marner, Ligue nationale l'an dernier, ou cette saison, pardon, c'est 16 millions de dollars. Carey Price, c'est 15 millions de dollars. Le coût là, sur le cap salarial, pour Price, c'est seulement 10,5 millions. Mais la totalité des gains en hockey pour lui cette année, c'est 15 millions. Alors, les joueurs ont beaucoup d'argent qui leur est dû le 1er juillet, 445 millions. Et ça, cet argent-là, elle n'est pas disponible actuellement, Mario. Pour la simple raison qu'on n'a même pas pu boucler les livres pour cette année. Puis il y a des équipes financièrement qui sont beaucoup plus fragiles, qui n'ont pas la liquidité pour payer ces bonis-là qui les attendent le 1er juillet prochain.
Alors, tu comprends l'enjeu comment?
D'essayer de garder la saison.
As-tu une piste, as-tu une idée de comment ils vont pouvoir régler ça?
Moi, je pense que la seule façon de régler... D'abord, il y a une excellente relation entre Donald Fear et Gary Bettman. Ça, c'est une chose à souligner. Donald Fear, il n'était pas toujours aussi agréable quand il était le directeur exécutif de l'Association des joueurs du baseball majeur. Mais depuis qu'il est dans la Ligue nationale de hockey, il s'est beaucoup assagi, il cherche des solutions. Lui et Bettman sont ensemble. Ils sont aussi responsables du succès des dernières années. Le hockey connaît du très bon succès financièrement, économiquement. Ben, je pense qu'ils vont travailler ensemble. Mario, ça va finalement être une certaine forme de réduction au niveau des propriétaires, au niveau des joueurs, au niveau de tout ce qui a l'aspect financier. Et on va devoir planifier pour 2-3 ans comment on va récupérer cet argent-là. Comment on va payer les sommes qui étaient dues. Et forcément, les propriétaires vont devoir probablement concéder un peu plus au départ, dans le 50-50, dans le partage des revenus, pour aider les joueurs à ne pas perdre trop financièrement. Mais la retenue, l'escrow va augmenter forcément. Et puis les bonis de performance, puis les bonis de statistiques vont diminuer. Les bonis de signature, ben on va les respecter ou on va les reporter à plus tard. Finalement, Mario, ça va être un arrangement qui va être de bon augure pour l'industrie du hockey, mais qui va demander une reconstruction, un nouveau modèle financier, assurément, pour les 2-3 prochaines années.
Oui, assurément. Et si je te disais ou je te demandais souvent, penses-tu que la balloune va péter, elle se dégonfle assurément
ouais.
en ce
ah
moment.
Oui, Mario. C'est vraiment pas une explosion parce que, rappelle-toi, toutes les indicateurs étaient très positifs jusqu'au coronavirus.
Oui.
Oui. Mais là, mettons qu'il manque d'oxygène dans la balloune, il manque d'air, et là, ça se dégonfle. Puis là, on n'a pas non plus, à la lueur des événements, à l'horizon, on n'a pas d'idée si les gens vont acheter des billets, des loges, puis des produits comme ça, puis comment ça va se consommer, le sport, en 2020-21, si elle se consomme. Parce que c'est loin d'être certain qu'on va pouvoir reprendre les activités dans un format normal.
D'après toi, une ligue, est-ce que la NBA ou la LNH ou les autres ligues, là, mais je me concentre sur... la LNH est peut-être pas aussi solide que la NBA puis la NFL, en fait, assurément pas. Mais est-ce qu'ils ont un fonds de roulement comme entité, comme entreprise NHL, là, où ce sont... est-ce qu'une ligue peut faire faillite, genre?
Ils ont un fonds d'urgence, Mario, ça c'est sûr, pour les grandes causes. Ça, c'en est une, bien sûr, là, mais tu sais, des équipes qui subissent des dommages, qui ont un désastre naturel, que le feu prend dans l'amphithéâtre, puis tu sais, quelque chose comme ça. Ou même des prêts, dans certaines ligues, ils prêtent beaucoup d'argent aux propriétaires pour construire un nouvel amphithéâtre, des prêts sans intérêt. Alors, il y a beaucoup d'argent en liquidité. Une chose qui est claire, une ligue qui fait faillite, c'est jamais vu dans les ligues établies. La XFL vient de faire faillite il y a 10 jours, tu sais, dans une ligue qui était à sa première saison, donc ça peut arriver. Mais il manque pas d'argent dans la Ligue nationale de hockey. Elle est pas aussi solide à chaque année que la NFL ou la NBA, bien sûr, parce que les droits médias sont moins importants. Mais on va devoir transformer le produit, Mario, et tenter d'exploiter les droits médias, parce que quand on parle de l'entente de la convention collective jusqu'au 15 septembre 2022, l'an prochain, à la conclusion de la saison 2021, l'entente avec NBC Sports de 200 millions de dollars, qui était une entente de 10 ans, se termine aussi. Et selon ce que j'ai lu et selon ce que j'ai appris, on espérait potentiellement doubler cette somme pour la nouvelle entente, aller jusqu'à 400 millions de dollars. Donc, encore une fois, c'était très positif.
Oui, vraiment.
Mais le produit, s'il se diffuse, Mario, c'est peut-être une des portes de sortie pour les ligues. Le contenu numérique qui va en sortir, puis la production, puis la diffusion sur les différentes plateformes, va peut-être permettre aux ligues d'aller chercher beaucoup plus d'argent, particulièrement à la Ligue nationale de hockey. Surtout si tu rentres un autre partenaire dans le numérique comme un Amazon ou un Google ou un Facebook qui commence à s'impliquer dans le hockey, ça pourrait permettre de générer des nouvelles sommes de dollars qui seraient vraiment nécessaires.
Repêchage de la NFL demain.
Oui.
On va pouvoir regarder ça. Ça va être télédiffusé comme si de rien n'était, mais ça sera pas du tout. Ça ressemblera en rien à tous les autres repêchages précédents.
Ouais, rapidement, tu sais, il y avait 600 000 personnes visiteuses à Nashville l'an dernier, puis une injection d'économie de 220 millions de dollars. Alors, ça n'aura pas lieu cette année à Vegas, tel que c'était prévu. Mais l'an dernier, au repêchage à Nashville, justement, près de 47 millions d'Américains ont jeté un coup d'œil à un moment donné ou à un autre, Mario, à la télé, pour suivre le repêchage sur ESPN. Alors, c'est un gros événement. Et là, on manque de contenu en direct, et je m'attends à ce que les chiffres soient très forts en termes d'audience télé, parce que même si c'est pas un match de football, Mario, ça demeure du contenu nouveau, frais, et l'intérêt est là parce que les gens manquent de choses à faire, et le sport remplit un vide important. Alors, je m'attends à quelque chose de très bien à ce niveau-là. Il n'y aura pas de côté spectacle, il n'y aura pas de côté là, glamour, si on me permet, là, en termes de l'événement, mais ESPN va faire un gros travail pour diffuser. La question, c'est les 32 équipes et comment eux vont pouvoir opérer dans un système qui va être d'un format en ligne avec 32 directeurs gérants dans leur domicile avec leur équipe, mais pas dans les bureaux des ligues. Tout le monde va avoir le terrain de jeu égal. Et là, les connexions, puis la capacité de communiquer en temps réel, puis on veut éviter qu'il y ait des problèmes technologiques, puis on veut surtout éviter qu'il y ait de la tricherie, du piratage, manque de confidentialité. Alors ça, ce sont les enjeux beaucoup plus importants. Les tests cette semaine n'ont pas été concluants non plus, Mario. Ils se sont un peu plantés avec la technologie. Alors ça va être un gros test. Surtout que la NBA puis la Ligue nationale de hockey, qui s'en viennent, eux, avec leur repêchage vers la fin juin.
Ils observent et ils prennent des notes, j'imagine.
Oui, ils n'ont pas le choix parce que ça va être le modèle à suivre. Oui,
et donc, il pourrait y avoir quelques pépins ou ratés techniques, on verra. Ils ont dû travailler fort pour préparer ça, de façon à ce que ça donne un bon produit. Quand même, la NFL, qui est tellement soucieuse de son image, peu importe les circonstances. Je voulais te parler aussi de The Last Dance. Tu nous en as beaucoup parlé avant la diffusion, mais là, beaucoup de gens qui sont à l'écoute ont pu regarder les deux premiers épisodes de cette série qui est consacrée à l'histoire voir à la dynastie des Bulls de Chicago autour du personnage central Michael Jordan, personnage numéro 2 Scottie Pippen et tous les autres personnages qui tournent autour de l'histoire. Et on te voit les gens qui, je ne sais pas si vous avez reconnu Ray Lalonde, mais on te voit aux côtés de Michael Jordan à Paris dans le contexte de la saison. Ça, c'est avant le sixième championnat en 7 ans des Bulls au moment où ça se passe, hein?
Oui, c'était en octobre, au début, le camp d'entraînement commençait, les Bulls ont débuté leur camp à Chicago, ils ont fait le voyage pour Paris, un événement qui s'appelle le McDonald's Championship, qui réunissait là 6 des meilleurs clubs de basket au monde, y compris le FC Barcelone, un champion en Australie, un champion de l'Amérique du Sud au Brésil, et puis les Bulls ont affronté Olympiakos de Grèce en finale. Jordan était là, Pippen était blessé, on l'a entendu, Pippen qui a décidé d'avoir recours à une chirurgie à 10 jours du début de la saison, c'était pas idéal pour les Bulls. Il y avait un énorme conflit, une énorme tension avec Jerry Krause.
Il était sous-payé parce qu'il avait accepté un contrat à long terme, un peu son contrat de Gallagher, genre, ici.
Ouais,
là.
Mais là-dessus, je pense que ni Krause ni Pippen sont à pointer du doigt là-dessus.
C'est
Pippen a signé ce contrat-là au départ, Mario, parce que il l'a dit dans le documentaire, il devait s'occuper de sa famille. Il y a 2 membres de sa famille qui étaient en fauteuil roulant. C'était très difficile, une famille de 12 enfants. Scottie Pippen, on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai voyagé avec lui en Europe à quelques reprises. C'est vraiment le meilleur deuxième joueur d'une équipe dans la NBA de l'histoire du basketball. Alors, il y avait la raison pourquoi Jordan gagnait, puis il l'a dit lui-même avec toute humilité, là. C'est à cause de Scottie Pippen à côté de lui.
Je ne sais pas s'ils sont encore amis. Oui, ils sont encore amis.
On les a souvent vus ensemble après leur retraite. Tu sais, Jordan est propriétaire des Hornets à Charlotte. Pippen, évidemment, qui a joué aussi pour 2 autres équipes après la déconstruction des Bulls en 98. Parce que ce qu'on voit dans le documentaire, c'est le début maintenant de la saison. Ça va se terminer par un championnat que les Bulls ont gagné. Mais ils ont effectivement cassé cette équipe-là immédiatement après. Phil Jackson dehors, Michael Jordan a pris sa retraite 2e fois, Pippen échangé, finalement il restait plus rien. Alors ça c'est arrivé, puis on peut blâmer Jerry Krause, on peut blâmer surtout, je pense, Jerry Reinsdorf, le propriétaire, qui a laissé cette équipe-là prendre cette forme-là, puis créer cette haine qui existait, ce conflit, cette tension. Parce qu'à la fin, on peut blâmer Krause, là, il en a fait des bons coups, il en a fait des mauvais. Mais
c'est le boss qui mène, c'est le propriétaire, c'est Reinsdorf.
Exactement.
C'est le climat qui régnait dans son entreprise. Mais Jordan est soucieux de l'image qu'il dégage dans la série documentaire et a même exprimé qu'il pense que les gens vont avoir une image négative de lui par rapport à ça, parce que c'est un compétiteur, puis donc à un moment donné, il poussait les autres, il y avait des standards très très élevés. Ça, je pense que de l'aspect compétition, les gens peuvent le comprendre. Mais permets-moi, et toi qui étais là sur place en début de vingtaine avec l'équipe de l'heure dans le sport professionnel, les Bulls dans le temps, ça n'avait pas l'air de le tenter ben d'être à Paris. Hein? Ben, ils ont joué le jeu, là, mais minimum. Et d'ailleurs, on te voit intervenir et dire à quelqu'un, t'as pas le droit de demander d'autographe. Mais si Jordan l'avait signé l'autographe, t'aurais pas eu à intervenir. Fait que ça nous montre comment des fois les gars de relations publiques ont le mauvais rôle de dire au monde, non, tu peux pas. Hein?
C'est pas facile, mais tu sais, d'abord, je vais répéter là, ce que j'ai dit déjà. Le gars qui a demandé l'autographe, Mario, c'était un gars qui était un employé de Canal+, qui venait de mettre le microphone sur Michael
déplacé.
Jordan. On rentrait en onde dans 30 secondes. C'est lui là qui a, puis Jordan regardait de mon côté à savoir que t'interviens-tu ou t'interviens pas, là, tu sais, parce que...
Ben oui.
Alors, mais à la fin, Jordan en a signé des autographes pendant qu'il était à Paris. Il est pas plus méchant qu'un autre. Il est pas plus dur qu'un autre. Il a été agréable de compagnie. C'est un gars qui est très exigeant. C'est un gars qui est pas facile. Tu l'as vu avec ses coéquipiers, mais à la fin, il demeure professionnel et courtois. C'est juste qu'il est dur. Il est dur parce que c'est son niveau d'excellence qui, à un moment donné, déborde dans toutes les phases de sa vie. Les Bulls, ça leur tentait pas, mais à la fin, l'expérience à Paris fut agréable. Ils ont gagné le tournoi, ils sont rentrés chez eux, ils ont eu du plaisir. C'est le fun de se promener dans le monde entier. C'est un peu les mandats. Quand tu as une ligue aussi mondialement reconnue que la NBA, les équipes ont une obligation d'aller représenter le produit dans le monde entier.
C'était toute une aventure. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'équipes qui avaient voyagé avant les Bulls cette année-là, Ray, ou c'était comme on voulait se servir des Bulls justement pour percer la scène mondiale?
Non. Écoute, le début des voyages de la NBA là, d'équipe, là, c'était dans les années 70.
Ah oui. Alors, ça remonte aussi loin que ça?
Oui, oui. Puis en 1987, le premier McDonald's Open a été créé avec les Bucks de Milwaukee à Milwaukee.
Ah.
Mais j'ai organisé aussi avec mes confrères en Europe le McDonald's Championship de 95 à Londres. Puis là, on a eu Hakeem Olajuwon et les Rockets, qui étaient les champions. Le McDonald's 93 à Munich, avec Charles Barkley puis les Suns de Phoenix. Et celui de 99, qui était mon dernier, avec les Spurs de San Antonio, puis Tim Duncan, puis David Robinson. Fait que, tu sais, honnêtement, la NBA voyage partout dans le monde depuis 30-40 ans, puis on se rappelle tous des Jeux olympiques de Barcelone en 92. Ça, c'était la vision de David Stern, puis on connaît Michael Jordan, mais Michael Jordan n'aurait jamais pu être ce qu'il est devenu.
Il semblait le respecter, d'ailleurs, on le sent dans les échanges.
Ah, oui. T'as vu la scène où ils sont les deux à l'entrée du vestiaire, là?
Oui.
C'est vraiment... Les deux sont arrivés dans leur poste en 1984. C'est dur de trouver deux individus qui ont marqué un produit sportif au même moment là pour les 15, 20, 30 prochaines années ensemble, comme Jordan et David Stern.
Ray, c'était très intéressant. Encore une fois, on te suit sur Twitter, sur Instagram et sur tes plateformes de médias sociaux. Puis on t'écoute les matins avec Paul et Alain, bien sûr, 8h15 aux environs. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci, Mario.
À très bientôt. Au revoir.